Merci Nicolas. Et on s'en va en Gaspésie. C'est bien là que vous êtes, chère Anne-Marie Aubin?
Eh oui, je suis toujours.
Oui, il fait beau aujourd'hui?
Oui, beau et chaud.
Oui, hein, il fait chaud, la chaleur ne nous lâche pas. Alors, vous avez lu pour nous et pour vous, j'imagine bien, L'habitude des ruines, le sacre de l'oubli et de la laideur au Québec par Marie-Hélène Voyer. J'ai bien hâte de vous entendre. C'est un livre qui m'intéresse vivement.
Ah, moi, j'ai adoré. Je sais pas si je vais trouver les mots pour rendre justement tout ce que l'on éprouve en
Je suis
lisant ce
certaine
livre-là.
Que oui.
C'est un livre magnifique comme objet d'abord, qui est avec plusieurs photographies d'archives et des photographies modernes qui illustrent les propos de Marie-Hélène Voyer, une jeune femme professeure de littérature au Cégep de Rimouski, qui a fait un doctorat en littérature à Laval, mais qui est née au Bic, dans le Bas-Saint-Laurent, et non pas dans la partie touristique, mais dans les terres du Bic, dont où la vie a été très différente. Et puis, elle raconte beaucoup d'anecdotes personnelles dans ce texte qui est un essai, je dirais, socio-historique, culturel. Elle a d'abord publié de la poésie aux éditions La Peuplade. Elle a publié Expo Habitat en 2018 et Mourons des champs en 2022, lequel s'est mérité le prix des libraires. Celui-là aussi s'est mérité le prix des libraires dans la catégorie Essai, l'habitude des ruines. Donc, elle a cette année gagné deux prix. C'est quand même extraordinaire.
Bravo.
Et elle avait déjà fait un essai qui s'intitule « Terrain vague, poétique de l'espace incertain » dans le roman français et québécois contemporain chez Nota Bene en 2019. Et on comprend que ces lectures-là ont nourri son analyse de la situation du patrimoine bâti, de notre culture au Québec. C'est que ce n'est pas seulement un essai qui explique les choses d'une manière socio-historique, mais qui est nourri de la littérature qu'elle a lue. Et ça, c'est fascinant. Puis en plus, c'est une poète qui écrit d'une façon merveilleuse. Alors, on lit ça et on est enchanté. On découvre des horreurs, effectivement. Notre patrimoine bâti, c'est pas réjouissant. Mais la façon dont elle l'écrit, c'est jamais pour dénonciatrice, c'est pour expliquer la situation et l'urgence d'agir. Je dirais que c'est un petit peu comme ça. Alors, c'est divisé en 6 chapitres et dans chaque chapitre, il y a des situations réelles, des sources, elle n'invente rien, qui dénoncent un certain nombre de choses qui concernent le patrimoine. Elle nous dit en entrant dans le texte dès les premières pages, cet essai se veut un pavé lancé contre notre accoutumance anesthésiée à la démolition, une dénonciation de la laideur lancinante, du lissage permanent à la fois social et historique de nos villes et de cet avachissement généralisé du paysage que l'on provoque au nom de l'orgueil vide de la nouveauté pour la nouveauté. Alors elle se dit que écrire, pour elle, c'est à la fois quelque chose comme la mémoire, c'est-à-dire que ça commence peut-être un peu par l'image de notre lieu natal. Alors elle va parler du Bic où elle a grandi, dans la maison de pierre, et elle dit « J'ai grandi sur une ferme qui n'existe plus. Elle gît, ensevelie quelque part, dans le chemin du troisième rang du Bic, pour toujours avalée par les flammes et les bourrasques d'une nuit de tempête. J'ai grandi dans une maison de pierre dont je ne reverrai jamais plus l'intérieur. » Et elle va citer des exemples de bâtiments comme la maison Boileau à Chambly qui a fait tout l'objet d'une série de démarches mais qui finalement a été démolie. Et elle dit que nous démolissons au Québec 3000 bâtiments chaque année, des bâtiments anciens. Là, c'est incroyable, hein? Ça fait que le patrimoine disparaît. Alors là, dans 6 chapitres, elle va aborder des situations, comme par exemple les maisons muettes, c'est pour montrer que finalement, on n'est pas capable de traverser le temps avec ce que l'on a installé. Et elle cite Pierre Neveu, qui dans Ligne aérienne, parle du gâchis de Mirabel. Bon, c'est un exemple. Ensuite, pour parler des croix de chemin, quand elle était jeune, il y en avait un chez elle, puis elle ne savait pas trop à quoi ça servait. C'était comme un lieu de rendez-vous pour ses amis qui se rendaient à vélo là-bas. Mais elle cite Gabriel Leroy dans le roman Alexandre Genevert, où lui, il découvre qu'il y a une croix de chemin qui est reliée à des fils électriques de Hydro-Québec. Alors, il dit, je le cite, « Au dos, il portait tout un appareil à demeure, câble tressé, filin, une boîte de fusibles sans doute. Alexandre se demanda s'il n'y avait pas aussi un compteur enregistrant le nombre de kilowatts que le Christ pouvait consommer la nuit lorsqu'il devait être allumé. Si le Christ s'allumait automatiquement, ou si, ce qui paraissait plus probable, si quelqu'un du voisinage venait à heure fixe pousser quelques leviers de l'appareil. » Donc, la croix de chemin, qui est un lieu de mémoire, sert finalement à passer des fils d'hydro. C'est assez inconcevable quand on pense à ça. Et toute cette laideur-là, ben, elle explique que c'est peut-être pour ça que les Québécois aiment tant les cabanes à sucre, les camps de chasse, les camps de pêche, les cabanes que les enfants se font dans les arbres. Et là, elle va citer Bernard Raymond, qui dit que lui, il y a une cabane dans le bois pour fuir la laideur. Puis là, il décrit tout ce qu'il voit sur sa route, qui est absolument affreux, et qui est là, et qu'on tolère. Alors, ça l'amène à parler d'un mot inventé qui s'appelle le laidisme, L-A-I-D-I-S-M-E-S, c'est-à-dire les néo-manoirs qui poussent au quartier 10-30 où on a détruit des terres agricoles pour faire des espèces de banlieues.
Ah oui, les Monster House.
Oui, et Isabelle Ayer, qui est une artiste en art visuel, a fait plusieurs projets où elle photographie ces maisons-là dans des banlieues aseptisées de fausses richesses. Et elle va citer Jacques Ferron, qui parlait de ça en 1968 dans La Charrette. Il disait que les banlieues imitaient la noblesse. Et Benoît Melançon a fait une étude, qu'elle cite aussi, où il a vu les projets domiciliaires avec des matériaux bon marché. Il dit où on étale la culture sans trop en avoir. Et les plans de maison peuvent s'appeler Perceval, Rabelais, Rue de Bœuf. C'est très prétentieux. Et finalement, c'est des cabanes qui, en 25 ans, vont être vétustes.
C'est du stock.
Oui, et celle qui m'a le plus plu, ben, c'est le cas de Liberté Freedom. Freedom, F-R-I-D-O-M. C'est un projet de résidence pour aînés à Saint-Hyacinthe. Et j'habitais à cette époque, cette ville. Ouais. Et le projet de... C'était un projet pour des aînés, une affaire de 8 étages et qui coûtait 35 millions. Et le groupe Sélection avait convaincu la municipalité que ça allait relever l'économie du centre-ville. Sauf qu'on sait ce qui est arrivé avec cette faillite de projet Sélection. Donc, la construction est inachevée en plein cœur de la ville. Et Isabelle Haché a écrit un article en disant « Il y aurait donc des bons vieux et des mauvais vieux » parce qu'ils ont sorti les personnes âgées qui étaient dans les logements vétustes, ils ont sorti une vingtaine pour faire cette tour qui finalement n'aura pas lieu. C'est assez odieux. Puis ensuite, elle dit que nous, on est nostalgique du passé. Ça dépend pourquoi. Exemple, Notre-Dame de Paris est incendiée, tout le monde pleure et s'émeut, on met des photos sur Facebook, mais on n'est absolument pas ému devant tout le patrimoine qu'on démolit ici. Et elle dit, on se prétend conservateur, mais on est tout sauf des conservateurs. C'est toujours l'économie qui mène. Hein. Alors ça, c'est touchant parce que non seulement c'est des cas où elle va dénoncer des municipalités, mais des fois, c'est l'art, la connaissance, la méconnaissance de notre culture. Par exemple, dans le cas de Alma, on avait commandé des œuvres d'art à des artistes, et puis il y en a une qu'ils ont lancée à la rivière. Ils disent que c'est un accident.
Oui,
on se demande si c'est vrai. Et Jordi Bonnet avait fait une murale pour l'édifice Bell à Dolbeau-Mistassini. Ça s'appelait le lac Saint-Jean stylisé. Puis, en 92, ils ont refait le revêtement de l'édifice de Bell. Et ils ont sacré l'œuvre d'art dans le container. Fini. Elle n'existe plus. C'est incroyable quand on voit des choses comme ça. C'est vraiment... Il ne faut vraiment pas savoir c'est qui Jordi Bonnet, là. Puis bon, ben après ça, elle explique que tout ça est planifié. Et ça, j'ai vécu ça aussi pour avoir voulu sauver la maison du Seigneur à Saint-Hyacinthe. Rien de moins quand même, là. Bon, ben les promoteurs ont acheté la maison. Puis elle dit que le rituel, c'est toujours pareil. Ils l'achètent pour avoir bonne conscience. Ils la laissent dépérir. Puis là, ils disent que finalement... qui ont un permis de démolition parce qu'il y a soit trop de dangers, elle représente des intempéries qui ont rendu cet édifice-là impossible à rénover. Et pour calmer les gens, ils nous disent « on va faire pareil, dans le même style ». Et
puis là, à l'identique.
Là, on fait un cube en métal affreux. Et elle dit « dans certains cas, et je la cite, la plupart du temps, on remplace ce qu'on a rasé par un vaste stationnement, une tour à condos, un méga projet domiciliaire, tous destinés à renflouer les copes de la ville et à rendre la vie agréable à des professionnels branchés ou à de confortables retraités actifs. » Ça, c'est la grande mode. Comme si les retraités étaient parfois inactifs. Enfin, ils sont surtout pas tous doués d'avoir capables de payer un loyer à 2000 $ par mois. Là,
oui.
C'est surtout ça. Fait que bon, bref, ça, c'est des choses qu'on lit et qui ça s'accumule, puis on voit qu'on a du travail à faire, mais c'est pas un livre déprimant, parce qu'elle dit que elle l'écrit pour conscientiser les gens. Elle dit « Les lieux qu'on habite depuis longtemps sont des territoires de gestes et d'histoires répétées. » Exemple, je la cite. « Ainsi, je suis toujours en terrain connu quand je retourne à l'érablière de mon père. peut-être parce que ces lieux, plus que n'importe quel autre, sont porteurs de gestes et des histoires qu'on m'a transmises. Peut-être aussi parce que je reconnais dans la clairière l'écho de voix anciennes qui me servent de boussole. Peut-être enfin parce que chaque chaudière rouillée m'évoque un souvenir vif de ce pays qu'on appelle l'enfance et que l'on porte toujours en soi. Ah, ça, moi, ça m'a touchée beaucoup. Et elle cite souvent Jacques Ferron qui parle de l'orientement, de d'où on vient, où est-ce qu'on va, et de La Mélanchier, ce roman si extraordinaire qui m'a marquée. Puis elle dit dans la conclusion qu'elle écrit, parce qu'elle écrit ça pendant la pandémie, puis elle avait un moment libre. Elle dit parce qu'en cette époque de pandémie et de bouleversement climatique, d'inégalité, de pauvreté, de violence ahurissante, il importe de trouver des refuges, des lieux où on pourrait s'épanouir, pour le plus grand nombre possible, quelque chose comme la vie bonne. Alors, vous voyez que cet essai est à la fois poétique, autobiographique, polémique, historique, culturel, fouillé, avec des articles qui sont cités en bas de page, qui sont désolants, mais qui sont réels. Et ses récits personnels sont vraiment touchants. Elle vient d'une famille qui n'est pas ordinaire et elle a été très touchée parce qu'on lui a appris pendant son enfance. Puis moi, là, je retournerai à l'école demain juste pour être dans la classe de Marie-Hélène Voyer, l'entendre parler de ce qui la passionne et des œuvres qu'elle a lues et que j'ai aussi beaucoup aimées. Bref, une superbe lecture qui, au-delà d'une littéraire, devrait être dans les mains de tous les politiciens, les urbanistes, les gens qui travaillent à la municipalité, les gens dans la culture qui n'ont pas l'air d'avoir compris que tout détruire comme ça, c'est pas une façon de faire, enfin.
Ouais, absolument. Bref. Pas juste les politiciens, les gens de l'urbanisme, tous les humains, parce qu'à un moment donné, on dirait que notre œil s'habitue à la laideur et ça devrait
exact,
pas, là.
Exact, c'est ça ce qu'elle dit. Et puis pourtant, là, quand on se promène dans les routes, les petits villages, on est très fiers quand on voit une maison très bien restaurée, puis à côté, il y a une ruine ou une roulotte.
Les maisons, les églises, les granges, les ponts couverts. Bref, le patrimoine bâti, moi aussi, ça me tient vraiment à cœur, là, parce que c'est notre mémoire, c'est le savoir-faire aussi de ceux qui nous ont précédés, c'est notre identité. C'est comme un livre wake-up call, si vous me permettez l'expression.
Puis elle explique qu'en voulant plus entretenir ces vieilles maisons-là, il y a des métiers qui n'existent plus.
C'est vrai.
On va pas aller chercher des charpentiers ou des ébénistes, on va prendre des affaires moulées en plastique, ça coûte moins cher. Mais dans 20 ans, ça va être laid, ça. Mm-hmm. Alors, il faut voir comment aussi le travail du passé, de nos ancêtres, doit être respecté. Pourquoi on détruit ça? Pourquoi on n'essaie pas de conserver ça? Et c'est pas valorisé dans la société présentement. Le gouvernement devrait aider les jeunes à obtenir une maison en disant, ben, vous pouvez la restaurer. Mais d'une belle façon, pas n'importe comment. Ouais. Alors, ça m'a touchée beaucoup et je pense que tout le monde pourrait, d'abord, c'est si elle a le prix des libraires, là, c'est que ça doit être excellent. Beaucoup de gens l'ont aimé, pas juste moi. Mais en plus, c'est une écrivaine qui écrit tellement bien. Le propos est touchant, mais l'écriture est extraordinaire. Alors, à lire absolument.
À lire absolument. Puis à lire aussi aujourd'hui, je ne sais pas, Anne-Marie, là, si vous avez le devoir devant vous, le journal, parce que à la une, on parle d'une église de 1810 remodelée au goût du jour. On parle d'une église qui est devenue un Airbnb. On a mis les bancs du parquet de côté. Les balcons ont été sacrifiés. Alors, on lit ça, puis on tremble un peu de colère. On sent impuissant, mais je pense qu'on peut l'exprimer. Puis ça peut faire changer tranquillement les idées, les idéologies, faire prendre conscience comme cet ouvrage le fait. C'est à lire absolument. Vous m'avez vraiment donné le goût. J'étais convaincue. De toute façon, je l'ai entendu en entrevue, cette fille est passionnante. Elle s'exprime très, très bien, autant à l'écrit que dans le langage l'oral, ouais. C'est ça.
C'est d'actualité par cette semaine ici en Gaspésie. La journée des phares, le gouvernement du Canada a décidé qu'il fermait le phare de Cap-des-Rosiers, qui est le plus grand.
Et pourquoi? Pour le rénover, le restaurer? Ou?
Non, parce qu'il est rendu dangereux, parce que justement, ils n'ont jamais voulu donner l'argent pour le restaurer.
Ils l'ont laissé,
C'est ça, fait qu'ils l'ont laissé aller à l'abandon. Puis là, ils disent que ça va prendre des études et tout ça. Mais ça, c'est le gagne-pain des gens de Cap-des-Rosiers, les visites guidées, les gens qui couchent là, qui mangent là. Et cet été, ils les ont fait ça la semaine dernière. Donc, ils leur coupent toute leur saison touristique comme ça, le jour de des phares, là, la journée des phares
ça
au Canada.
Ça n'a pas de bon sens.
Alors, on voit qu'on doit toujours recommencer. Puis le comité du patrimoine a dit, on n'est pas surpris. C'est leur technique. Ils attendent que ce soit dangereux. Et là, ils vont dire, on va le détruire.
Alors, il y a un modus operandi sournois.
Ah oui. Ouais. Alors donc, On a encore beaucoup de travail à faire.
Absolument. Alors, L'habitude des ruines, Le sacre de l'oubli et de la laideur au Québec, très beau titre. C'est publié chez Lux Éditeur par Marie-Hélène Voyer. Et c'est Anne-Marie Aubin qui nous en a parlé avec beaucoup de conviction et de passion. Là-dessus, Anne-Marie, je vous dis au revoir, puis on va se retrouver. Bon, au revoir, on se voit pas vraiment, là. Mais peut-être qu'un jour, vous allez venir faire de la radio à Montréal en studio, ça serait bien. Une fois n'est pas coutume, on sait jamais. Je vous lance l'invitation, mais sinon, Denis Martin Chabot sera au micro d'Au quotidien à partir de la semaine prochaine.
Moi, je vous souhaite des belles vacances.
Merci. Merci beaucoup.
Merci.
Bon été. Bye.